11h, 12h30,
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Il est un peu perdu, il ne sait pas s'il va pouvoir s'habituer à la disparition des billets de 500 euros. Il ne pourra plus faire d'appoint à la boulangerie, celui qui a toujours été cash. Miguel, qui regarde.
Ah, j'aimerais tellement que ça soit vrai. Bonjour.
Malgré les intempéries, elle est heureuse. Elle se dit que les mentalités évoluent parce que pour une fois, la tempête porte le prénom d'un garçon. La féministe contre vent et marée, Léa Lando.
Bonjour.
Il a profité de la grève des agents du FIS pour oublier de déclarer la piscine olympique qu'il a creusée au fond du jardin, le bricoleur clandestin Jean-Philippe Bizzini.
C'est tellement vrai. Bonjour à tous. Bonjour.
En amour, il a le même avis que Bruno Le Maire sur la TVA gratuite. Il est ouvert à toutes les propositions, le conciliant Benache.
Bien sûr, ouvert 24 sur 24. Bonjour à tous.
Et celle qui a enflammé hier soir le casino de Paris, celle qui milite contre la morosité ambiante, Anne Roumanoff. Ouais.
Au sommaire de cette émission, Jean-Philippe Vizzini nous dira tout sur le Viagra féminin. À 11h30, nous recevons Maurice Safran et Nicolas Domenac pour leur livre « Le tueur et le poète » paru le 11 janvier aux éditions Albin Michel. À l'occasion de leur venue, Ben H nous donnera lui aussi son regard sur Emmanuel Macron. Et à partir de 11h50, Chantal Lobby et Philippe de Chauvron seront nos invités pour le film « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» qui sort aujourd'hui au cinéma en partenariat avec Europe 1. Michael Quiroga nous parlera des clichés abordés dans le film et Léa Lando a préparé une interview de famille à nos invités.
11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Nicolas Hulot devrait retrouver la tête de sa fondation en tant que président d'honneur. Et vous, dans quel domaine vous aimeriez faire votre grand retour, Jean-Philippe ?
Écoutez, moi, je prépare mon grand retour au cinéma. Et comme disait Annie Girardot, je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français m'a beaucoup manqué.
Non, mais Jean-Philippe, vous avez déjà fait du cinéma ?
Hein ? Oui. Dans Alibi.com, je joue le rôle d'un homme qui conduit une voiture.
Ah, effectivement, ça ne nous avait pas manqué.
Merci.
Michael ?
Oui, alors moi, je voudrais faire mon grand retour dans le foot, justement, parce que alors, les gens ne le savent pas, mais j'ai le même niveau... Non, rigolez pas, j'ai le même niveau que Olivier Giroud.
Non, Michael, vous n'avez pas du tout le niveau pour être en équipe de France.
C'est ce que je dis, j'ai le même niveau qu'Olivier Giroud.
Oh. Ben H.
Ah bah moi, écoutez, j'ai toujours été assez discret sur le sujet, mais s'il y a bien un domaine où j'aimerais faire mon retour un jour, c'est bien la politique. Retrouver un peu le frisson des élections, la frénésie de la campagne, les alliances, les trahisons.
Vous avez déjà fait de la politique, Ben H.
Oui, j'ai été élu délégué en 6e.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
41 départements sont mis en alerte neige, verglas et vent violent par Météo France à cause de la dépression Gabriel. Ça commence à faire beaucoup, déjà qu'on a régulièrement la dépression Édouard Philippe.
10 cm de neige, ça va être un beau bordel à Paris, tout va être bloqué. Ah ben non, ça va être un jour comme les autres, on a la tempête Hidalgo, 365 jours par an, nous. En Dordogne, un homme sexagénaire s'est fait arrêter par la police parce que depuis 28 ans, il roulait sans permis. Ah ça, c'est pas à Paris qu'on verrait une chose pareille.
Pourquoi ? Parce qu'à Paris, tout le monde est honnête ?
Non, parce qu'à Paris, personne ne roule.
Suite à la visite du président Macron en Égypte, en termes de droits de l'homme pour le président Sissi, c'est toujours non.
Non, non.
Le pape s'est prononcé contre le mariage des prêtres en affirmant que le célibat est un don pour l'église. Un don pour l'église qui finit du coup gonflé, bleu et tapotant douloureusement sur les genoux.
Non.
Oh, c'est élégant.
Ah, ça vous fait ça quand vous êtes en... Ah, je savais pas.
Oh mon Dieu.
Ah, toi c'est les genoux, moi ça me tape sur les pieds, c'est marrant. Donc, le pape s'est déclaré opposé effectivement au mariage des prêtres, car pour lui, le célibat est un don pour l'Église. Certains prêtres vont donc devoir continuer à vivre leur vie d'homme en cachette. C'est pour ça que quand on rentre dans une église, on dit « bonjour mon père », parce que parfois c'est vrai.
Le pape a dit non au mariage des prêtres. Moi qui connais bien le célibat, puisque je suis pratiquante, je dis non, c'est du gâchis, enfin.
Depuis lundi, 3 syndicats de fonctionnaires ont lancé une grève qui va durer au moins jusqu'au 15 février. Wouhou ! Et je suis totalement solidaire. Wouhou ! Ne lâchez rien, on est avec vous.
Ouais, mais t'as l'air super concerné. Qui c'est qui fait grève ?
Les agents du fisc ! Ouais ! C'est formidable ce que vous faites, je suis avec vous. Tenez bon, grève illimitée.
Les agents du fisc sont en grève à partir de ce lundi. Le couple Balkany se félicite pour ces quelques jours de repos bien mérités.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Lalando, Ben H, Mickaël qui regarde et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes au hôtel 4 étoiles. On joue à un autre jeu, devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Léa Lando, Ben H, Jean-Philippe Vizini et sa jolie chemise. Elle est en solde aussi.
C'est ma voisine qui est hôtesse de l'air qui me l'a ramenée de New York.
Non, elle est belle.
Oh là, la frime. Non, mais... On me l'a ramenée de New York.
Oui, parce que c'est la marque, c'est une marque machin Flinger et c'est moins cher là-bas.
Tommy Hilfiger.
Yes. Tommy Hilfiger.
Ouais,
mais elle est belle celle-ci.
Non, c'est vrai qu'elle est belle. Cher.
Vous n'arrivez même pas à dire le nom.
Mais elle, c'est un cadeau ou tu dois la rembourser ?
Non. En fait, c'est comme ça. De temps en temps, elle ramène des choses.
Et puis, de temps en temps, quand ta femme n'est pas là, tu la remercies. Quoi.
Non, mais quelle mentalité, Léa Lando.
Elle est cynique, en fait.
Mais oui, c'est ça.
Tu ne crois pas en l'amour.
Mais oui.
Si, bien sûr. Je crois pas en la générosité gratuite.
Mais non, mais c'est des échanges de bons procédés.
Justement, tu la remercies comment ?
Non, on croit en l'amour.
On garde ses enfants.
Mais c'est vrai, la vie, c'est un don. Ah, tu vois, il garde ses enfants.
Voilà.
Ah,
de
d'accord.
De temps en temps, on se rend des services.
Qui sont aussi les tiens, de toute façon. Donc c'est pas.
Laissons la justice faire son travail.
C'est le moment de notre jeu.
Europe 1, Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Vous avez vu comme ma voix est chouette.
Ça veut dire que ça s'est bien passé le casino de Paris hier.
Très bien.
Donc, ça me donne des frissons quand vous êtes comme ça.
C'est vrai ?
Arrêtez.
Il t'en faut pas beaucoup et encore tu m'as pas vu déguisée en hôtesse de l'air.
Oh là là !
Sucré
ou salé, oh les deux.
Je vous propose de jouer pour un séjour de 3 nuits, des temps de bien-être, évasion à l'hôtel 4 étoiles, Thalasso Spa, les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon. Qui c'est qui a fait ce bruit-là ?
C'est moi, le Flamant Rose.
Ça gâche tout.
Bah ouais.
Proche de Perpignan, 3 nuits pour 2 personnes, en formule petit-déjeuner avec 3 demi-journées de cure de remise en forme par personne, modelage sous affusion, bain multijet, chromothérapie, hydrogé aquagym, avec accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness.
Mais alors, souriez, parce que là, on dirait que vous êtes enrhumé, en fait.
Pas du tout. Mais tu rigoles, c'est toute la sensualité de ma voix.
Plus d'infos sur www.hôtel-flamant-rose.com.
Je me sens pas bien, au secours.
C'est juste
il y avait le téléphone rose, maintenant il y a le flamant rose.
Ah, ouais.
Alors on joue d'abord avec Eric. Bonjour Eric.
Bonjour Anne. Bonjour.
Alors Eric, vous avez 53 ans, vous êtes commercial à Arles.
Oui.
Oui. Et commercial de quoi ?
Ah, je vends de la peinture bâtiment.
C'est sexy.
C'est super sexy ça.
Peinture extérieure ou intérieure, les deux ?
Peinturateur, je crois même qu'on en a vendu au Flamant Rose.
C'est vrai ?
Ouais, je vous assure.
Ah, c'est drôle.
Il est beau cet hôtel, alors vous l'avez vu ?
Oui, il est très beau, il est super. Moi, je n'y ai jamais dormi.
Mais rassurez-nous, c'est pas de la peinture rose que vous leur avez vendue.
Non, pas du tout.
Bon, ça va.
Alors vous aimez bien faire des balades, Eric, en cheval, en moto, en quad ?
Exactement,
tout ce qui se monte.
Eric, aujourd'hui, ce sont des personnalités, on est mercredi, qui ont marqué l'actualité culturelle et médiatique de la semaine, uniquement des personnalités culturelles. Vous jouez avec qui, Eric ?
Moi, j'aimerais jouer avec Léa Lando.
Chouchoute.
Mais je pense qu'elle les paye. Il doit y avoir un business européen.
Non, elle est quand même très efficace. Écoute, en général, elle fait
gagner.
Hier,
j'ai gagné contre elle.
Elle est efficace, elle est jolie, elle est sympathique, elle est rigolote, elle a tout pour elle.
Oh là là,
d'accord.
Merci Eric.
Vous ne la connaissez pas donc.
Ouais, si. Il a tout compris, Eric. On va tout faire pour gagner ensemble. Hein.
Vous êtes prêts ?
Très gentil, merci.
Attention, maximum personnalité à deviner en 40 secondes, top chrono.
Alors, c'est un chanteur qui chantait Donnez-moi. Oui, elle, c'est la seule femme des nuls. L'équipe des nuls. Oui, tout à fait. Lui, c'est un ancien joueur de foot marseillais. Il est comédien maintenant.
Le Boeuf ?
Non, l'autre. C'est un acteur de... Oui, dites-le. Il a le même prénom que vous.
Éric Cantona.
Oui, tout à fait. Lui, c'est le duo du SAV. C'est pas Omar Sy, c'est l'autre.
Fred Testo.
Oui, elle, c'est l'animatrice de cette émission.
Anne Romanoff.
Oui, elle, c'est celle qui joue dans 10%, qui joue une lesbienne.
Je passe.
Elle a joué dans Liaison Fatale. Elle a tué le lapin.
C'est pas mal.
Ah, je sais pas.
Bien, 5 bonnes réponses.
C'est pas mal.
Bravo.
Alors, vous n'avez pas deviné Glenn Close dans Liaison Fatale.
Ah, Glenn Close, je l'avais sur le bout de la langue.
Bah oui, mais sur le bout de la langue, ça suffit pas.
À son âge, elle aurait été contente.
Oh, ça suffit. C'est ça suffit, Léa, mais c'est quelle image. Et Camille Cotin dans 10%.
Ah oui, Camille Cotin, 10%, oui.
Ouais. Donc, bon, 5 bonnes réponses, c'est pas mal. On va voir comment se débrouille Laurence. Bonjour Laurence.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Bonjour. Bonjour. Laurence, vous avez 53 ans aussi, vous êtes chargée de projet en communication à Lille.
Oui.
Et vous faites du yoga, du vélo.
Mm-hmm.
Oui. Et
pourquoi?
Pourquoi elle fait du yoga? Et vous aimez bien acheter dans les brocantes.
Voilà, exactement. Mm-hmm. Je me lève le matin tôt, le samedi, et puis je vais faire mon petit tour.
Des fois, vous achetez des choses qui ne servent à rien, j'imagine.
Surtout des choses qui ne servent à rien.
Et vous les mettez où?
Je les revends en brocante.
Elle les revend la semaine d'après.
C'est votre business.
Voilà, c'est ça. Ouais. Non.
Et la dernière chose que vous avez achetée, c'est quoi?
C'était un miroir un petit peu décoré, plein de froufrou, que je vais certainement revendre.
C'est bien.
Parce que
hein.
Ça ne va pas, finalement.
Eh ben, c'est un beau projet de vie, hein, tout ça.
C'est bon, bien. Laurence, vous jouez avec qui?
Alors, avec vous.
Oh là,
oh là, là.
Mais moi, je ne suis pas très bonne.
Oui, je crois que vous n'avez jamais gagné, Anna.
Si, tu n'es pas mauvaise.
Bah oui, mais bon. Oh là là là.
La dernière fois, vous avez fait un, quand même.
Oui. Je me rappelle, c'était sous Giscard.
Bon, vous êtes prête?
Attention, oui, Laurence, prête. Anne, top
chrono. L'animatrice de l'amour est dans le pré.
Oh mince, je veux dire.
Oh bah oui, mais alors, l'amour est dans le pré.
Oui.
Bon, l'acteur des visiteurs. L'acteur des plus populaires. Oui. Celui qui a fait Kaamelott.
Celui qui a fait Kaamelott, je passe.
Celui un jour un destin, un présentateur
Christophe
télé.
Andelatte.
Non, avec une belle mèche blonde à la télé, présente le journal de France 2. Il est avec Alice Taglioni, c'est un très bel homme.
Oui, son nom est sa mère.
Ah bah oui, mais c'est ça, c'est le principe de retrouver les noms. Hein. C'est un auteur de science-fiction qui a écrit des histoires qui font peur.
Hitchcock.
Oh là 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 là.
L'organisation est respectée.
Nul.
C'est vrai qu'Anne, pour vous défendre, vous n'avez pas de chance à chaque fois. Vous ne gagnez jamais, mais vous n'êtes jamais aidé. Le président des États-Unis. Ah, je sais plus. Mais c'est vrai.
Mais non, j'étais un petit peu.
Non, mais la présentatrice de L'amour est dans le pré, c'est quand même
Karine Lemarchand.
Mais oui, Karine Lemarchand.
Laurent Delahousse.
Ouais, que oh des là gens là, qui bah débutent. Ouais, hein.
J'ai perdu mes moyens.
Et Stephen King.
Et Stephen King.
Ouais. Elle était impressionnée.
Bah ça, désolée,
voilà,
Laurence.
C'est ça. Bah oui, désolée.
Là, il n'y a pas photo. Hein. On peut
pas. Bah, c'est sûr et certain. C'est sûr.
Eric, bravo. Ouais.
Oui, merci, super.
Je veux un cri de joie.
Oui.
C'est marrant, il passe
le doigt dans une porte.
Vous avez gagné un séjour de 3 nuits détente bien-être, évasion à l'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa Les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon proche de Perpignan. 3 nuits pour 2 personnes en formule petit déjeuner, 3 demi-journées de cure de remise en forme par personne, modelage sous infusion, bain multijet, chromothérapie, hydrojet, aquagym avec accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur www.hotel-flamand-rose.com.
Qu'est-ce qu'ils appellent l'espace marin? C'est la piscine?
Non,
c'est la mer.
C'est une
mer,
salle
en fait,
avec que des marins. tu passes un bon moment.
Espace marin, c'est une piscine d'eau de mer avec plusieurs bassins, de températures différentes, des parcours.
Il y a l'espace pompier avec que des pompiers. L'espace facteur, voilà, c'est des endroits.
C'est cool.
Très sympa.
C'est
Eric, vous allez partir avec votre femme?
Je vais partir avec mon épouse et ma Cathy, ma chicorée.
Ah. Pourquoi votre chicorée?
C'est romantique.
Parce que Cathy,
hein,
c'est dans les tuches, la chicorée, elle s'appelle Cathy.
Voilà. Il y a peut-être d'autres films pour choisir des prénoms hein, que les tuches. Les tuches, c'est sympa, c'est marrant.
C'est un
mais
clin d'œil.
Bah, elle va être contente que vous l'emmeniez en thalasso, dis donc, votre femme.
Eh bien, écoutez, je pense qu'elle va être ravie. Je vais l'appeler tout à l'heure pour le lui dire.
Bah, on va l'appeler. On va l'appeler.
Allez. Ouais.
Allez.
Allô?
Cathy?
Oui.
Oui, bonjour, c'est Anne Romanoff.
Oui, bonjour.
Vous savez pourquoi je vous appelle?
Mon mari joue avec vous, non?
Oui, il joue avec moi, votre mari.
Et on a les vidéos, on peut vous envoyer.
Et vous savez la nouvelle, Cathy?
Aurait-il gagné?
Il a gagné.
Ouais.
Trois nuits. Super. Trois nuits en quatre étoiles.
Oui. À Los Angeles.
Génial.
Non, pas Los Angeles. À l'hôtel Les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon, proche de Perpignan.
Génial.
Avec thalasso, tout. Hein.
Ah, super.
Je vous le passe, votre mari.
Allez-y. Salut ma Cathy. Alors, on va aller se faire papouiller avec son mari.
Oui, ah, il est modeste hein, dans la lecture.
Qu'est-ce qu'il a dit? On va aller quoi?
On va aller papouiller avec son mari. Apparemment, il y a une salle avec ça... plein de marins. Vous allez voir.
Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Cathy?
Bah écoutez, une bonne vingtaine d'années, même plus, 30.
Ah, et alors, ah, oui. vous faites des petits week-ends en amoureux encore ou pas?
Ah oui, tout à fait. Ah. Il faut.
Bah ouais,
et on valide complètement le machicoré?
Le machicoré, ouais, on valide.
Ok.
Bon, on vous embrasse tous les deux. Profitez bien, on est ravis de vous avoir fait gagner.
Merci, je
vous
embrasse tous. Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir. Bonjour. Bravo. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Ben H et Jean-Philippe Vizini qui nous parlera du Viagra féminin.
Oh, c'est chaud.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. 11h, 12h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, oui. Léa Landau, oui. Ben H. Et Jean-Philippe Vizini.
Olé.
Aux États-Unis, des robots développés par Amazon réalisent leur première livraison auprès des clients de l'enseigne. Si vous pouviez vous faire aider d'un robot dans votre quotidien, ce serait pour faire quoi, Jean-Philippe?
Moi, ben, ma femme, elle a acheté un robot. Je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça nous bouffe toutes les piles. Et elle n'a toujours pas fait un seul gâteau avec ça.
Je ne vois pas du tout ce que c'est.
Moi non plus.
Mickaël?
Bah, faudrait faire un robot président, par exemple. Vous voyez, ce serait le même que le nôtre, mais amélioré.
Et vous l'améliorerez comment?
Bah, on rajouterait des oreilles qui fonctionnent.
Ouais. Jean-Philippe Vizini, voilà. Vous voulez nous parler du Viagra féminin?
Je sais que ça vous intéresse. Hein.
Pas du mais tout. Ça existe
si,
en vrai
si, ça existe vraiment. Pour l'instant, c'est vendu uniquement aux États-Unis. Ah. Mais avec un peu de chance, ça va arriver en France. Mais comme nous, je vous l'avais dit tout à l'heure, on a une voisine qui est hôtesse de l'air. Elle nous en a ramené et on a pu tester ça ce week-end. Et ben, ça change tout. Faut savoir qu'en France, un Français sur trois a des problèmes de libido. C'est les statistiques. 1 sur 3. Mickaël, c'est vous? Vous avez des... Non?
Pourquoi moi?
Léa, c'est vous?
Ah non, pas du tout.
Eh ben, c'est Ben H, voilà. Sûr. J'en étais sûr. 1 sur 3 qui galère, voilà. Et j'ai lu dans un magazine que la sexualité des femmes est plus subtile que celle de l'homme. Vous confirmez, Anne, c'est plus subtil.
Ah, mais moi, je suis très subtile.
Mais voilà, la sexualité de la femme est plus subtile ou plus relou. Ça dépend, voilà. Parce qu'ils disaient dans le magazine, ils expliquaient que c'était un magazine, c'était dans Biba, vous voyez, c'est un magazine, c'est féminin, hein, c'est, j'ai pas lu ça dans Auto Plus. Hein. Ils disaient que pour qu'une femme ait envie de faire l'amour, il faut que toutes les conditions soient réunies.
Ouais, déjà,
premièrement, prends des notes, Ben H, prends des notes.
Oh, moi, je crois qu'il a pas besoin de prendre des notes. Mais...
Premièrement, il faut que ce soit le bon moment.
Ouais.
Hein, c'est vrai, c'est important pour
bah
une
ouais.
femme, le bon moment.
Bah
hein.
Oui, il y a quand même 4 jours alors, dans le mois où ça tomberait
mal. Alors que pour
mal.
Un mec, le bon moment, bah, c'est quand elle est là. Hein. Non, pas de planning, nous, t'es là, je suis là, voilà. Deuxièmement, il faut que l'homme ait pris sa douche.
Ah oui.
Elles le disent. Ah oui, c'est important pour une femme, c'est vrai, c'est important. Hein. Elles n'aiment pas quand... Alors que moi, franchement... À la limite, quand elle schnouffe un peu.
Oh non.
J'aime pas quand ça sent trop le
oh
savon.
Non,
vous
ça
savez,
suffit, on veut pas savoir.
C'est des produits industriels, on sait pas ce qu'ils mettent dedans, c'est chimique.
Oh non.
Alors que quand elle.
Non.
Eh ben, c'est bio, voilà, c'est
bon
bio.
Bon appétit à tous les gens qui nous écoutent en faisant
c'est
manger.
C'est de l'hiver, on les embrasse. Troisièmement, il faut qu'il y ait des sentiments. C'est vrai, mesdames, vous confirmez, c'est important les sentiments. Hein. La demoiselle, elle a besoin de vivre une histoire d'amour, un peu comme dans La Belle au Bois dormant. Hein, alors que Ben H, c'est plutôt La Belle au Bois de Boulogne. Hein, ouais, mais... Ça n'a rien à voir, hein. C'est deux écoles, hein. Deux salles, deux ambiances. Donc ce week-end avec ma femme, on a pu tester le Viagra féminin. Le problème, c'est que le médoc, il vient des États-Unis. La notice, elle est toute en anglais. Du coup, nous, on s'est gouré dans la posologie.
T'as du mal.
La posologie. Elle est devenue toute rouge. On a fait l'amour 3 fois de suite. Elle était toujours pas fatiguée. J'ai dû aller acheter du Viagra à la pharmacie de garde. J'en ai pris 2 cachets d'un coup. Là, ça sonne à la porte. Ma femme, mince, j'avais oublié de te dire. J'ai invité mes parents à manger ce soir. Bon, voilà, j'arrête là. Tout ça pour vous dire qu'on a passé une bonne soirée. Voilà, voilà.
Anne Romanoff sur Europe 1.
J'aime bien ces témoignages vécus, ce reportage au plus proche de votre réalité.
Ouais, enfin, bon, la plus grande blague, c'est quand même j'ai fait l'amour trois fois de suite. Hein, mon
si, ça, je te dis pas en combien de pauses j'ai mis entre les
combien de jours.
Alors, on a le répondeur des auditeurs. Vous nous laissez des messages sur le 3921. On en écoute quelques-uns.
Anne, je vous ai vue hier au Casino de Paris. Je voulais vous dire que j'ai remarqué que tout le public était debout, sauf Léa Landau. À mon avis, elle est jalouse de vous et rêve de prendre votre place. Méfiez-vous.
Alors Léa, tu ne t'es pas levée pour faire une standing
ovation? Mais comment elle m'a vue assise au milieu de tous ces gens debout?
Ah bah je ne sais pas, j'ai un témoignage. Hein.
Qui est cette espionne?
Ouais.
J'ai essayé de tirer les gens par le pantalon pour qu'ils se rassiedent.
Ah bah. Alors, on a un autre message.
Bonjour, j'appelle pour réagir aux propos de Yann Moix sur les femmes de plus de 50 ans et lui dire que je suis retraitée et j'ai une vie sexuelle bien remplie. Parfaitement. Je me fais baiser tous les jours par la CSG.
Bien, bah merci
dame.
Pour ce témoignage élégant. Ensuite, on continue.
Oui, bonjour à tous. Je vous appelle car je suis psychiatre et je vous écoute tous les jours. Alors, c'est très marrant, tous vos petits problèmes aux uns et aux autres, mais dans le jargon, ça s'appelle pas une émission, ça s'appelle une thérapie de groupe. Voilà, bonne journée.
C'est tellement juste.
Bah, oui, bah, ça nous fait du bien aussi de parler de nos problèmes.
Bah, ouais, l'émission s'appelle Ça fait du bien. On se fait du bien.
Et puis les gens qui nous écoutent, et bah, ça les rassure, ils sont pas si.
Ils disent à pire.
Allez, un dernier message.
Et bonjour, un grand merci à Léa pour sa générosité. Je ne suis pas un auditeur, je suis son banquier. Et vu tout ce qu'elle dépense, merci beaucoup pour les ajouts.
C'est lui qui me pique tout mon fric.
Vous êtes dépensière, Léa Landau?
Non, franchement, si. Non, mais je ne suis pas dépensière, je suis généreuse, c'est pas pareil.
Ouais. C'est-à-dire,
bah,
c'est-à-dire
elle-même.
Que... Non, ah ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dîner, comme moi, je ne supporte pas de diviser les additions, je finis toujours par inviter tout le monde.
Ah
voilà.
Ouais.
Et même quand j'ai pas d'argent.
Pourquoi elle nous invite pas à dîner?
Apparemment, on n'est pas de la bande. Hein.
Bah non, et parce qu'on l'organise jamais. Ah ouais. Organisons un dîner.
Et ouais. On fait ça ce soir.
Ce soir, oui.
Et c'est toi qui payes.
Ouais.
Je peux choisir le resto?
Non. Je suis généreuse, mais pas con.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe avec Mickaël Quiroga, Benal, Jean-Philippe Bizigny, Léa Landau et nos invités Nicolas Domenac et Maurice Safran pour leur livre Le tueur et le poète, paru aux éditions Albin Michel.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Ben H, Jean-Philippe Bizigny. Et nos deux premiers invités qui sont deux fines gâchettes du journalisme politique. Ils viennent de dégainer du gros calibre avec Le tueur et le poète, l'histoire d'un prince de la République qui, contre toute attente, investit l'Élysée. Toute ressemblance avec un président jupitérien étant évidemment involontaire. Ce récit dévoile ce que personne n'avait encore jamais osé écrire, mais eux ont osé. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'accueille Maurice Safran et Nicolas Domenac. Alors, c'est pas la première fois que vous écrivez des livres ensemble. Vous avez déjà consacré plusieurs opus au président Chirac.
On a fait 4 livres sur Chirac et un sur Sarkozy.
Un seul et Hollande, non.
Hollande, non, mais il nous a moins inspirés, disons.
Il faut du romanesque, il faut du fanfare la tulipe.
Il y avait de quoi faire quand même avec François
Hollande. Pas dans les pics, pas dans...
Le scooter, tout ça, c'est pas romanesque en pleine nuit, tout ça. Non.
N'inspire pas de la même façon. Quoi.
Ça manquait de flamboyance. Quoi.
Voilà.
D'accord. Et pas que régulièrement, vous vous brouillez avec les hommes politiques parce que vous devez être proche d'eux pour avoir des infos. Et après, quand vous révélez des choses, ils ne vous parlent plus. Et après, ils se...
C'est une façon de faire ce métier, c'est d'entrer en sympathie, d'entrer en résonance, essayer de comprendre ce qu'ils ont dans la tête, dans le cœur, dans les tripes et tout ça. Et puis donc pour ça, ensuite, il faut, pour faire son boulot, il faut prendre des distances.
Vous vous infiltrez en fait,
ouais,
un peu.
Et d'après, on est un peu obligé de trahir, mais en gamblant quoi. Il faut une élégance.
Trahir en gamblant, parce que quand même, oui. Vous avez publié un livre sur Nicolas Sarkozy en disant ce qu'il n'aurait jamais dû nous dire, un truc.
Ouais. Ah oui.
Il n'a pas dû bien le prendre quand même.
Ah, bah, oh non, mais il l'a pas bien pris. Mais un, il l'a vraiment dit. Et deux, c'était des propos, des scènes, des situations tellement extraordinaires que ça a éclairé le personnage. Donc à partir de là, ça devient de la politique. Tant que c'est vraiment que du people, ça ne nous intéresse pas. Tant que c'est du people. Mais à partir du moment où le comportement, les mots, les phrases, les verbes jouent sur la politique, alors là, ça nous concerne.
Il y a un moment, d'ailleurs, dans un de ses livres, vous racontiez une scène où Nicolas Sarkozy était dans un jardin avec des lunettes de soleil. Vous avez cru que c'était Christian Clavier, c'est vrai ?
Ah oui, il était ministre de l'Intérieur à l'époque, donc ça fait un choc quand même quand nous, journalistes, on vient le voir quand même vaguement habillé et que vous voyez quelqu'un. Moi, je voyais quelqu'un dans le fond du jardin sur une chaise longue, torse nu. Et j'étais sûr, j'ai dit à Maurice, mais c'est Christian Clavier, ça ne peut pas être le ministre. Pour moi, j'étais dans le déni total. Je ne pouvais pas imaginer un instant. Et à ce moment-là, l'huissier en chaîne arrive et dit, Monsieur le ministre vous attend. Et lui, il se moquait de moi, évidemment, Maurice, en disant, mais si c'est Christian Clavier. Pardon, c'est Nicolas Sarkozy.
C'est un livre très bien écrit, donc Le tueur et le poète, donc il parle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait la police, c'est vrai, et l'apparence fragilité des naïfs, mais il y avait de la profondeur derrière la surface miroitante de ses yeux bleus. Il fallait savoir écouter, les apparences étaient trompeuses. Le jeune ministre avait du métier, de la vista, il avait appris les quatrains et les rimes de la poétique politicienne, la liturgie de sa métaphysique. Il en avait beaucoup retenu, le double jeu faisait partie du jeu, le poète pouvait cacher un tueur.
C'est ça. Non, vous l'avez tellement bien dit, je me disais, c'est vachement bien ce que vous racontez.
C'est bien écrit.
Un stratège avisé, un tacticien redoutable, un guerrier sous ses airs de première communion souriant. Tous les anciens lui donnaient le bon Dieu sans confession et leur confiance et leur argent. Un tombeur de vieux, c'est plus redoutable qu'un simple séducteur.
Mais ce qu'on a découvert, je crois que c'est un point à la fois juste et très important, c'est que, et ici on va le comprendre peut-être mieux qu'ailleurs, c'est un acteur de théâtre et pas un acteur de cinéma. C'est quelqu'un qui s'est inventé, qui s'est compris sur une scène de théâtre. C'est là qu'il a. Et on voit très bien, c'est pas un acteur de cinéma. C'est-à-dire l'acteur de cinéma, il joue sans doute très bien, mais s'il se trompe, c'est pas grave.
On l'a refait.
On peut recommencer. Lui, il a appris la vie sur scène,
en live,
avec son prof de théâtre, qui est devenue sa femme. Donc c'est une histoire assez particulière quand même. Mais quand on regarde bien, quand on voit Macron face aux Français là depuis 15 jours, je ne juge pas sur le fond, ça on en pense ce qu'on en veut. Mais ce qu'il fait depuis 15 jours, c'est un jeu d'acteur de théâtre absolument prodigieux. Pour l'instant, il n'y a pas une faute. Hein. Ça a duré 14 heures, 15 heures, 16 heures. Il n'y a pas une faute. C'est un acteur de théâtre dans ce qu'il y a de mieux chez les acteurs de théâtre.
Il va faire Avignon cet été d'ailleurs.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Nicolas Domenac et Maurice Safran, venus nous parler de leur livre Le tueur et le poète, consacré à Emmanuel Macron, aux éditions Albin Michel. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga et Alain Lauberge.
Bienvenue à tous. Bonjour.
Jean-Philippe Vizini et nos deux invités, Nicolas Domenac et Maurice Safran, venus nous parler de livre Le tueur et le poète, ce qu'on n'avait jamais encore osé écrire sur Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on n'a encore jamais osé écrire que vous avez écrit?
On a essayé de faire comprendre psychologiquement qui est Macron, avec toutes les facettes. Et c'est ça qui est le vrai défi. C'est un personnage...
Et vous l'avez compris, qui il était?
Ça, c'est à vous de le dire, c'est au lecteur de le dire. Mais on a essayé de comprendre, parce que c'est une histoire absolument inouïe, dans le fond. Un type de 39 ans qui prend le pouvoir en quelques mois, parce que ça a pris quelques mois, qui a une histoire personnelle également stupéfiante. Donc voilà, qu'est-ce qui compose cet Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ça a renversé tout le système français, parce que l'ensemble des spécialistes, nous compris, les soi-disant spécialistes, avons expliqué pendant des mois et des mois que c'était impossible.
Hein. Vous, notamment, Nicolas Domenac, vous n'y croyez pas du tout.
Au début, non, pas du tout. Mais c'est parce qu'en plus, j'étais trop bien informé par rapport à Maurice. C'est-à-dire que c'était au plus près de François Hollande et de ses conseillers qui préparaient la campagne présidentielle. Donc, ils m'ont intoxiqué. Vous pouvez être trompé par vos sources, empoisonné par vos sources. On croyait, on était peu. Hein. Maurice, lui, croyait vraiment que François Hollande ne pouvait pas y aller. Et ben, comme il préparait les meetings, les slogans, les réunions, tout ça, je me suis dit, une fois que le monarque se déclarera, et ben Macron, il va
vous
il
dites
a dégagé.
Que François Hollande a dit sur Emmanuel Macron, Emmanuel m'a trahi systématiquement, méthodiquement.
Oui, mais c'est assez extraordinaire parce que François Hollande, comme Chirac d'ailleurs, sont deux faux gentils. tout le monde dit que...
Alors Emmanuel Macron, c'est un vrai méchant ou c'est un faux gentil?
Ouais, je crois que c'est un vrai méchant, mais c'est un, comme les autres. Mais,
ah, les autres sont des faux gentils, lui c'est un vrai méchant.
Non mais c'est des faux gentils, parce qu'ils ont joué sur la gentillesse. Ouais. Tout le monde parle de Chirac aujourd'hui avec des trémolos dans la voix. Les Français adorent Chirac. Mmh. Il a tout tué autour de lui systématiquement pendant 40 ans. C'était la plus grande peau de vache de toute la politique française, Chirac. Donc on s'est tous raconté une histoire. Mais
Hollande, un faux gentil aussi.
Hollande, qui est un faux gentil, est tombé amoureux d'Emmanuel Macron. Il a aimé Emmanuel Macron. La seule personne que François Hollande ait aimé dans ses 30 ou 40 ans de politique,
c'est Emmanuel Macron.
C'est ça qui était...
C'est pour ça qu'il lui a tout donné, directement.
Et c'est ça qui est très extraordinaire. Ce type qui est un dur, Hollande, comme tous les grands politiques, qui est un méchant... comme tous les grands politiques, il a aimé Macron. Et c'est ce
comment
rapport...
il l'a pas vu venir, alors ?
Il a rien vu venir. Que dalle. Parce qu'il l'a aimé. Et c'est ça qui est très amusant.
Il l'a sous-estimé aussi, un peu. Vous savez, comme Chirac a sous-estimé Balladur. Vous vous souvenez de Chirac qui disait de Balladur, c'est une poterie chinoise qui ne tiendra pas l'épreuve du feu.
Oui, mais il n'a pas aimé Balladur.
Non, il n'a pas aimé.
Oui.
Mais il l'a admiré.
Mais maintenant, il doit le haïr, alors, Hollande.
Ah oui.
Il a souffert comme une infidélité amoureuse. Alors.
Oui, c'est ça, exactement.
Moi, j'ai une petite question, c'est que quand on est élu comme ça en un an, est-ce que lui-même, il s'attendait vraiment à être élu ou est-ce que lui aussi a été surpris quelque part?
C'est une très bonne question.
J'ai que ça, des bonnes questions.
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question.
Oh, je voulais poser la même, j'ai pas eu le temps.
Il va plus se sentir. Vous lui avez fait un compliment, là, on en a pour une semaine.
Bah, c'est pas n'importe qui non plus.
Non, mais vous pouvez recommencer à la fin.
Selon Brigitte Macron, il y a vraiment cru. Il y a vraiment cru tout de suite, etc. Et la personne la mieux placée pour comprendre et savoir ça, c'est Brigitte Macron. Et elle lui fait pas de cadeau, hein. Donc c'est pas voilà. Et je pense sans doute qu'il a vu ce qui, c'est ça qui est extraordinaire dans le fond. Il a vu l'état actuel de la société française. C'est pour ça que quand on dit que Macron et les Gilets jaunes, il y a plein de points communs et que c'est les deux faces d'une même médaille. C'est pas faux. Je crois qu'il a vu ce qui se passait dans la société française, qu'il s'est engouffré dans cette brèche, qu'il a été élu et qu'il s'est arrêté juste après. Donc voilà. Mais je crois qu'il a vraiment vu qu'il avait la place pour quelqu'un comme lui. Et ce qui est assez inouï parce qu'il était le seul à le voir. Hein,
ça
dire la vérité.
Avec l'époque aussi où les gens sur les politiques ils sont un peu
complètement
réticents.
Complètement.
Quoi, d'accord.
Ça va, tu ne mets pas non plus à parler.
C'est plus sur LCI.
C'est devenu l'interview de Mickaël qui regarde.
Il est en train d'envoyer son CV à Public Sénat.
J'ai qu'une seule occasion de montrer à tout le monde que je connais le mot réticent, c'est quand les deux là ils viennent. Je profite.
Vous parlez aussi du rythme effréné qu'impose Emmanuel Macron à l'Élysée. Vous dites 3 heures de sommeil en campagne, 4 à 5 heures pour le reste, gouvernance de l'insomnie qui engendre, selon le spécialiste, tension, irritabilité, perte de lucidité et autres.
Non mais ça c'est un truc dingue, ouais, je suis sidéré qu'on n'en parle pas davantage, je veux dire, parce que c'est très bien qu'il dorme peu, très bien, enfin pour lui, puisque au fond il dit qu'il le supporte parfaitement. Mais tous les spécialistes du sommeil qu'on a consultés vous disent que c'est horrible les gens qui dorment très peu, d'abord parce qu'il faut dormir un certain nombre d'heures pour être tranquille, et puis qu'ensuite, quand vous êtes au sommet du pouvoir, vous entraînez tous les gens autour de vous au même rythme, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de vie, tous, c'est des zombies au bout d'un moment. C'est-à-dire, ils sont explosés de fatigue, les gens qui travaillent avec lui. Ils prennent quasiment plus de vacances, sauf quand il en prend. Et quand il en prend, même là, il
envoie des textos en pleine nuit aussi, c'est ça ?
Oui, il envoie des SMS, tout ça. Et si vous n'avez pas votre SMS et que vous bossez au plus près avec lui, bah vous êtes tout tristou, hein.
Ça nous fait pareil. Ça nous fait pareil avec la patronne.
Il y a eu toute une mythologie véhiculée, notamment par mon compère Domenac, que c'était absolument atroce. Un président qui dort 4 heures par... Il est allé consulter, il est allé faire parler des spécialistes du sommeil, etc. Bidon. Tout ça est bidon, d'ailleurs, mais c'est pas grave.
Vous bossez ensemble ?
Si. Alors, et donc, il y a cette thèse que là... Faut quand même écouter les journalistes politiques, hein. C'est quand même des mecs spéciaux. Lui en particulier aussi. La France souffre du fait que le président ne dort que 4 heures par nuit. Et il faut les prendre au sérieux, ces mecs-là. En plus. C'est extraordinaire.
Ben H, qui dort aussi très peu, d'ailleurs.
Pour d'autres raisons. Ouais.
Il fait la fête,
aujourd'hui, en tout cas, on reçoit deux grands journalistes, Maurice Safran et Nicolas Domenac, deux journalistes que j'ai découvert à deux époques différentes de ma vie. Le premier, Maurice Avrance, c'était en 2005, année où je me suis abonné à votre journal que vous possédiez à l'époque, Marianne. J'étais un adolescent bête et engagé qui se donnait de la consistance en lisant un hebdo politique de référence. Bon, je suis désolé par contre, mais dès 2006, le naturel est revenu. Je me suis abonné à FHM et je fumais des pétards. Un virage brutal qui m'a permis successivement de rater mes études, découvrir le chômage et donc le visage de Nicolas Domenac dans la nouvelle édition de Canal Plus chaque midi. Je vous ai quitté donc sur les années Sarko et je vous retrouve ce midi avec ce livre consacré à Emmanuel Macron, un livre qui pose notamment une grande question: sera-t-il maintenant capable de surmonter la rupture avec les Français? Alors j'ai lâché la politique, mais je m'y connais pas mal en rupture. Généralement, faut du temps et du temps, hein, sauf si tu continues à accoucher avec une autre et que c'est sa sœur. Là, ça sert à rien et on n'est vraiment pas là pour parler de moi en plus. Vous êtes ici donc pour nous parler de votre ouvrage sur Emmanuel Macron, baptisé Le Tueur et le Poète. Alors au début, je me suis dit, on dirait le titre d'une fable. Je suis un mec hyper perspicace. Le Tueur et le Poète. Et puis rapidement, je me suis dit, une fable sur 300 pages, ça fait beaucoup trop de rimes à trouver. Hein, page 300, on aurait lamentablement échoué par un truc genre... Puis le tueur a continué le travail, et même si le peuple n'en pouvait plus, le poète avait gagné la bataille. Et les Français l'avaient dans le... Non. Non. Et en plus, c'est clairement pas votre style du tout. Mais néanmoins, l'idée n'est pas si saugrenue que ça. Le Tueur et le Poète, ça pourrait être une sorte de fable schizophrène sur Macron. Monsieur le Tueur, à l'Élysée perché, tenait dans ses mains le pouvoir. Monsieur le Poète, par des mots préparés, tentait d'éviter l'abattoir. Bon, je vous la fais pas en entier, déjà parce que j'ai pas envie de me mouiller, c'est drôle.
Mais t'as pas été capable d'écrire la suite.
Surtout pas, peut-être pas le temps et tout ça. Hein. Enfin bon, c'est drôle en tout cas, une fable de La Fontaine qui mouille.
Oh là là.
J'ai pas poussé jusqu'à Jean de la femme Fontaine. Mais à mon sens, à la fin de cette fable, c'est comme pour celle du vrai La Fontaine. On lui donne notre fromage, on jure de ne plus jamais se faire prendre, mais on remet ça 5 ans plus tard. Merci Novak.
Merci.
Europe 1. Merci Nicolas Domenac et Maurice Safran d'être passés nous voir. On rappelle votre livre Le Tueur et le Poète, ce qu'on n'avait encore jamais osé dire. Un livre consacré à la psychologie d'Emmanuel Macron qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. On se retrouve dans quelques instants, c'est Chantal Lobby et le réalisateur Philippe de Chauvron qui seront nos invités pour nous parler du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, un film formidable qui sort aujourd'hui au cinéma.
Midi 30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Lando Benach, Philippe Bizzini et nos deux invités. On l'a découverte il y a 30 ans dans Les Nuls. Depuis, elle est devenue des actrices les plus populaires du cinéma français. Elle est drôle, tendre et subtile. Il est le réalisateur qui a dépoussiéré le thème du vivre ensemble au cinéma et qui a battu tous les records avec Le Bon Dieu. C'est un duo de choc, Chantal Lobby et Philippe de Chauvron qui sont avec nous pour nous parler du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu qui sort aujourd'hui dans les salles. Merci. Bonjour Philippe de Chauvron et Chantal Lobby.
Bonjour.
Anne.
Bonjour.
Comment on se sent alors ce jour de sortie? Vous avez un peu le trac?
Oui et non.
Oui et non, parce que oui. Vous êtes sur le film et vous avez fait plein de projections, les gens rient.
Oui, les gens rient, les gens s'amusent, tant mieux, ça c'est bien. Mais on a toujours cette petite appréhension que vous connaissez bien. Vous savez, celle qui vous fait la petite boule au ventre avant de...
Oui, elle la connaît, elle joue ce soir au Casino de Paris. Elle Philippe voilà. aussi.
C'est pour ça.
Philippe de Chauvron, quand on a fait 12 millions d'entrées, qu'est-ce qu'on se fixe des objectifs pour le numéro 2 ou on se dit...
Le double.
24.
Je ne veux pas dire... pas mentir, on a au moins la moitié, voilà.
Ah, et ça sort dans combien de salles aujourd'hui?
Ça sort dans 800 salles.
800 salles. Philippe de Chauvron, alors 5 ans se sont passés entre les deux tournages, vous avez retrouvé vos acteurs changés? Est-ce que certains ont attrapé la grosse tête après le succès ou est-ce qu'ils l'avaient avant? Comment ça s'est passé?
Non, j'ai eu la chance, après je fais attention aussi quand je fais un casting ou je choisis des acteurs de ne pas prendre
les casse-couilles.
Voilà.
Ouais, c'est important. Donc, ils ne se sont pas tirés la bourre pour le deuxième en disant moi je veux exister plus et blablabla.
Non, après, il y a toujours des discussions, mais c'est vraiment, c'était bénin. Ouais. Et puis, ils s'entendent bien, voilà. Déjà, Christian et Chantal, franchement, ouais. Les deux ensemble.
Vous vous connaissiez avant?
Je l'avais rencontré, Christian. Il avait participé à l'émission des Nuls. Là, vraiment, je me souvenais de fou rire avec lui, extraordinaire. Mais je n'avais jamais tourné avec lui dans un film. Donc, j'étais très contente. Dans Astérix, ouais. Mais on n'avait pas des scènes vraiment ensemble.
Et là, ça s'est très bien passé entre vous.
Oh, mais j'adore. J'adore parce que il a dans les yeux ce petit truc de rire, machin, et on a juste à se regarder, on sait que. Et je savais des fois quand il allait me placer une petite phrase en plus pour voir ma réaction, alors je me préparais et j'essayais de préparer quelque chose moi aussi. Donc c'était un petit jeu qu'on avait entre nous.
Et j'ai découvert en lisant votre biographie, Chantal Lobby, que votre mère était catholique pratiquante. Oui, bien sûr. Et du coup, il y a un écho avec votre propre enfance, parce que vous dites que votre mère était catholique pratiquante et en même temps rock'n'roll, un peu loufoque.
Oui, complètement. Oui, elle riait bien avec les trucs des nuls et tout, mais il l'empêchait qu'elle allait quand même à la chapelle, nettoyer un peu, arranger un peu tout ça. Voilà. Je la revois encore faire ça, et même à sa mort, le curé avait fait un discours là-dessus en disant « Madeleine était formidable pour ce qu'elle a fait pour la chapelle et tout ». J'ai appris des tas de choses sur elle. Elle faisait catéchisme à des gosses et tout. J'adorais ça.
Donc il y a un vrai écho en fait avec ce
complètement,
rôle.
Et même avec la maman de Philippe.
Ouais.
Même avec Philippe, quand on avait discuté de ce personnage, la manière dont il me parlait de sa maman, j'entendais la mienne.
C'est vrai que votre mère est assez incroyable, Philippe de Chauron.
Ma mère, ah oui.
Je l'ai rencontrée dans la rue à Noël.
Ah bon,
non, parce que...
Expliquez-nous ça.
Oui, raconte, c'est pas au bout de l'anecdote.
Ouais, bah, si.
Non, je ne vais pas raconter ça.
Mais si, bien sûr, maintenant vous avez
Non, mais parce qu'on était dans le même lycée avec Philippe de Chauron quand on était petit. Donc on s'est connus à 16 ans, ou je sais pas, 15 ans. Et donc j'ai rencontré ta mère dans la rue. Et je lui ai dit, alors c'est bien le film. Oh bah, c'est pas sûr que ça marche autant que le premier, mais bon.
Sympa. Sympa.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Mickaël Quiroga, Alain de Benoît, oui. Jean-Philippe Vizini et nos deux invités, Philippe de Chauvron et Chantal Lobby, venez nous parler de la suite. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Un film formidable qui sort aujourd'hui en salle.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi. Avec Philippe de Chauvron et Chantal Lobby, venus nous parler du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui sort aujourd'hui en salle. Alors, dans ce second volet, il fallait trouver une idée. Vous ne vouliez pas faire une suite, forcément, Philippe de Chauvron, et vous avez trouvé une idée. Donc, c'est des gendres qui rêvent de s'installer à l'étranger et les parents qui font tout pour les retenir.
Bah oui, quand les quatre décident de partir, ça fait une drôle de gueule quand même.
Oui, en fait, ils veulent quitter la France pour diverses raisons. Et ce qui m'amusait aussi, c'est que dans le premier, s'ils avaient fait ça dans le premier épisode, le personnage joué par Christian Clavier aurait été ravi qu'ils partent. Et là, il va tout faire pour les retenir. Ouais. Donc ça m'amusait aussi.
Puis il y a beaucoup, ça correspond à un phénomène social, il y a beaucoup de Français qui partent à l'étranger, que l'étranger fait rêver.
Oui, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Français aussi qui se plaignent de la France, qui râlent, qui pensent que c'est mieux ailleurs. Voilà. Donc ça aussi,
sinon,
ça
on ne serait pas français.
Voilà.
Des Français qui râlent, vous êtes... J'aurais remarqué.
On a appris tout à l'heure que vous connaissiez Anne Romanoff quand elle avait 16 ans. Vous n'avez pas un truc à nous raconter sur
à
elle
16 ans, moi, je vois ça. À 16 ans,
15 ans même, je
à 15 ans, c'était qui son mec?
Mais elle n'en avait pas.
Je ne sais plus.
Ah oui,
c'est
voilà.
Trop vieux,
t'as
je
oublié.
En fait, je n'étais pas dans sa classe. Mais
en fait, je l'ai toujours considéré comme un petit parce qu'il était la classe en dessous. En fait, on est la même année et c'est son frère qui était dans ma classe.
Et maintenant qu'il a fait 12 millions, tu l'appelles monsieur.
Non, je me dis, je ne le vois plus pareil.
Je me souviens que c'était ma mère l'a cité en exemple parce qu'elle travaillait très bien à l'école. Voilà.
Ah, t'étais bonne élève.
Vous pouvez dire à votre maman que ça a beaucoup changé.
Et on avait fait un stage de cinéma quand on avait 16 ans pour... tu te rappelles pas?
Ah oui,
pour faire un court-métrage ou je sais pas quoi, pour devenir réalisateur.
Ah oui, quand même.
À la campagne,
oui, je me souviens.
Il y a eu des trucs alors entre vous?
Non, rien du tout.
Rien. Et avec le frère non plus?
Ah bah le frère.
Chantal,
merci Chantal. Voilà, merci.
Alors, le frère, connard.
Okay. Elle a eu une histoire avec.
Non, j'en ai pas eu justement. Non, il a pas voulu.
Il
y en a qui ont essayé.
Non, mais il m'a fait mariner, je sais pas. Surtout, à un moment, je suis sortie avec un mec.
On sent que c'est encore frais. Hein.
C'était il y a 36 ans.
J'ai peut-être y aller, moi.
Un mec le mieux du lycée.
Vous?
Oui. Oui. Et l'autre, ton frère, il se met à me regarder avec des yeux, tu vois.
Ah ouais.
Un peu.
Colère. Alors qu'il t'avait dit non avant.
Alors qu'il me. Tu vois. Et donc, je me dis, bon. Ça y est, il craque pour moi.
Et en fait, non.
Quand je sors plus avec l'autre, eh ben, je l'intéressais plus.
Vous avez voulu vous taper tout le bahut.
Tu l'as jamais revu?
Si, je l'ai revu, mais il est beaucoup moins beau qu'avant.
On apprécie votre franchise.
On lui passe le bonjour.
Ouais.
Non, mais c'est normal qu'il y ait un... Donc, du coup, je m'intéressais forcément à sa famille, parce que oui. c'était ma cible.
C'est pour ça que Madame de Chevron disait « Regarde comme elle travaille, la petite Roumanoff. »
Voilà,
mais si, si son frère avait su que vous auriez une émission à Europe 1, je pense qu'il vous aurait pécho. Hein. Rien pour que vous ne parliez pas de lui. Quoi.
Et Chantal Lobby, alors, vous, ça ne vous dit pas de réécrire une autre comédie, voire de rassembler le trio de l'époque?
Ah, je ne sais pas, non. De rassembler le trio de l'époque, non.
Ouais, non.
Pourquoi pas, mais ouais, pourquoi enfin, on pourrait se retrouver par petits bouts, mais ouais. L'écrire, oui, des fois j'y repense.
Ouais.
Et la j'aime
suite,
bien.
La suite de La Cité de la Peur, ça serait bien, non, savoir ce qu'ils sont devenus tous.
Bah, on nous l'avait proposé à l'époque, puis on s'est dit non. À l'époque, on a dit non, le 1 suffit, pas, on ne fait pas de 2.
Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut avoir une bonne idée pour faire un 2, et là c'est le cas, Philippe de Chauvron, vous avez une très bonne idée.
Bah, en tout cas, c'était ça renouvelait un peu l'histoire. Ouais. En fait, quand les gens, ils veulent... Le même film est quelque chose de complètement différent. C'est un peu ça qui est compliqué et bizarre.
Et là, vous avez réussi parfaitement.
Ah bah merci.
Bon, alors, Chantal Lobby, votre père était militaire, poète et dépressif. Mmh. C'est parce qu'il était poète et militaire qu'il était dépressif ou c'est parce qu'il était dépressif?
Non, je pense que ce métier de militaire ne devait plus lui convenir à une certaine époque. Donc, il nous a fait une petite dépression, même une grosse. Ouais.
Poète militaire, c'est dur. Hein, c'est comme un...
Non,
un
mais il avait... Non, vous savez, il m'avait raconté La Chèvre de Monsieur Seguin, je me souviens, à tous les enfants de la famille. Et il a inventé la fin. C'est-à-dire que c'était elle qui gagnait. Et j'ai longtemps cru que La Chèvre de Monsieur Seguin était gagnante. Et puis, il y a 5 ou 6 ans, j'entends la fin de l'histoire, la chèvre est morte. J'ai dit, la chèvre est morte. Et ben donc, je trouve que c'est de la poésie, ça. C'est-à-dire dire à ses filles, allez-y, battez-vous, vous gagnerez peut-être.
Soyez sympa, tout le monde, dites-lui rien pour la maman de Bambi.
Non, mais c'est... Je me suis surprise à être étonnée. Enfin.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Chantal Lobby et Philippe de Chauvron venu nous parler du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui sort dans 800 salles tout à l'heure.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Philippe de Chauvron et Chantal Lobby. Venez nous parler du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui sort aujourd'hui dans 800 salles. Il faut aller le voir malgré la neige parce que ça va réchauffer. Ça va
réchauffer. Bah, le rire réchauffe. Hein.
Le rire réchauffe.
Oui, la neige s'arrête, j'ai vu.
Vous auriez dû écrire Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu fait du ski.
Chantal Lobby, qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue quand vous les
Bonjour.
Il paraît qu'on vous fait beaucoup la blague du whisky.
Oui, ça, la blague du whisky, on l'a fait. Mais là, je suis devenue, pendant quelques années, là, depuis quelques années, Madame Werner.
Ah oui, oui, on vous dit
ah
bon.
Mais oui, et puis même des petites filles ou des petites jeunes filles de 14-15 ans, c'est ça qui me surprend, qui viennent me parler de Madame Verneuil, du film, de tout ça. Me racontent, des femmes qui me racontent leur vie en me disant que moi, c'est pareil. Ouais. J'ai deux jantes, c'est la même chose, ça a été terrible avec mes filles, voilà. Donc, je me mets à discuter avec elles, comme si on se connaissait, ça, j'aime bien. C'est adorable.
Et la blague du whisky, dites ce que c'est cette...
Ah bah, tu veux un whisky, juste un doigt, tu peux un whisky d'abord, il suffit que je sois dans un bar ou n'importe quoi en train de boire un verre pour que je m'entende cette phrase.
Hein. Elle est excellente,
ou alors, à la pharmacie, mythique. Le Tampax sur l'oreille. Ah bah. Chantal, t'as un Tampax sur l'oreille, voilà. Merde, qu'est-ce que j'ai fait stylo. De mon stylo. Ça, c'est des phrases...
On vous le dit à la pharmacie tout le temps.
Et à la pharmacie, j'ai dû l'entendre 2-3 fois.
Ouais. Ouais. Franchement. Ah ouais. Ouais, ouais. Et alors, ça vous amuse ou...
Bah, ça m'amuse, évidemment. Je fais les réponses.
Vous trouvez que l'humour, a changé ou que la façon de rire a changé par rapport à cette époque-là?
Non, quand un truc est drôle, franchement, on se marre.
Ouais.
Tout le temps, faut arrêter de dire que ça change. Quand c'est marrant, on rigole, puis c'est tout.
Vous voulez un whisky, Chantal?
Juste un doigt.
Un whisky d'abord.
Merci. Vous dites d'ailleurs, Chantal Lobby, que vous aimez les hommes qui vous font rire, mais torturés.
J'aime les deux, moi.
Oui,
j'aime
c'est quoi un homme torturé, c'est-à-dire?
Bah, c'est un peu comme moi.
Dans une cave.
C'est-à-dire, on peut faire rire. Et puis on est un peu torturé, c'est-à-dire qu'à des fois on va chercher un peu des trucs pour se faire
vous
du mal.
Vous faites quoi après l'émission, Chantal?
Voilà.
Un petit café?
Peut-être pas autant torturé que ça. Hein.
Je t'en dois.
Il va dire oui, lui, hein. Il va faire la part de la réplique.
Pardon.
Michael Quiroga a des choses à vous dire.
Oui, voilà. Alors, Chantal Lobby, bonjour, je
bonjour.
Vous aime. Philippe de Chauvron, bonjour, je vous aime. Non, 12 millions d'entrées, excusez-moi, ça se respecte et ça se faillote. Alors, avec ce qu'on a encore fait au bon Dieu, vos 12 millions de fans, justement, vont pouvoir suivre les nouvelles aventures, ou plutôt les nouvelles mésaventures de Claude et Marie Verneuil. Chantal, vous êtes Marie, en général plus raisonnable que Claude, hein, que joue Christian Clavier. Claude, c'est en fait quelqu'un quelqu'un qui aime la bonne bouffe, le bon vin, les bonnes engueulades. Trois éléments qui font partie des prérequis pour embrasser pleinement la culture française. Claude, c'est un inquiet, c'est un nerveux dans le premier film. Il n'était pas très content que les étrangers tournent autour de ses filles. Et ça l'énervait. Dans ce deuxième film, il n'est pas très content que les étrangers veuillent partir dans leur pays d'origine. Je ne comprends pas, parce que quand il y a des étrangers, il n'est pas content. Quand ils veulent partir, il n'est pas content. En fait, j'ai l'impression que le kiff de Claude, c'est juste de ne pas être content. Quoi, vous voyez. Mais bon, il a fini par s'y faire, hein, notamment grâce à l'amour qu'il porte à ses petits-enfants. Surtout parce que Marie, Chantal Lobby, tient à ce que la famille reste unie. Au fond, ils évoluent. Et c'est tant mieux, parce que moi, je dis vive le mélange, vive le métissage, franchement. Et en plus, bon, on va pas se mentir, le métis, c'est plutôt rassurant, hein. Si, de manière générale. Je veux dire, enfin, à part Guy Georges, le métis est plutôt rassurant. On est d'accord. La preuve, c'est que quand une fille sort avec un noir, la première question que ses parents posent, c'est il est noir comment ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, s'il est métis, la première question qui vient, c'est lequel des deux parents qui est noir ? Comme si ça changeait quelque chose, je veux dire. Non, mais qu'est-ce qu'ils imaginent ? Si c'est ma mère qui est noire, je fais bien le ménage. Si c'est mon père qui est noir, j'ai un gros sexe. Non, mais franchement, comment on peut penser des choses pareilles, aussi rétrogrades, en 2019. Bon, moi, c'est mon père qui est noir, mais c'est pas le problème. Ça n'est pas le problème, d'accord ? Le problème, ce sont les clichés. Les clichés qui font qu'on pense tous des choses erronées sur les autres, et la plupart du temps, ces mêmes clichés sont contradictoires, d'ailleurs. Je m'explique, hein. Si je prends les clichés sur les noirs, par exemple, puisque bon, bah, ça me concerne, ils sont contradictoires. Par exemple, on dit souvent que les noirs courent vite, hein, par exemple. On dit aussi, bon, certains disent d'autres, que les noirs sont fainéants, hein. Et puis, il y en a d'autres qui disent que, bah, ils ont un gros sexe. Bon, bah déjà, expliquez-moi comment on fait pour courir vite quand on est fainéant. Avec un gros sexe, en plus. Le truc qui vous tape sur les cuisses, c'est un coup à vous péter les genoux. Non, non. Et puis renseignement pris, les noirs n'ont un sexe plus long que celui des blancs. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un scientifique qui m'a expliqué ça. C'est juste qu'il est implanté plus bas sur l'os pubien. Donc, il est juste plus apparent. Voilà. Bon, certes, de beaucoup. Mais ce n'est que ça, quoi. C'est-à-dire que Benache, qui est blanc, est ici présent. Et moi, bah, qui suis noire, et eh ben elle fait la même taille, mon frère. Voilà, bon, sauf que la tienne, elle est à l'intérieur de ton corps. Mais, alors, dans le film, on dirait canif, le mec. Dans le film, il y a aussi André, le père du personnage de Noum Diawara, qui est le négatif de Claude, hein, je dirais, qui est au moins aussi intolérant que lui, et auquel sa fille chérie, élevée dans des valeurs catholiques les plus strictes, réserve une sacrée surprise. Et c'est aussi un des enseignements du film, c'est que ben, l'intolérance n'a pas de couleur. Et ça, alors, c'est pas une étude sociologique non plus, hein. C'est juste un bon film pour se marrer entre potes ou en famille, mais on n'est pas à l'abri de réfléchir à un truc ou deux quand même. Le premier opus est devenu un film de légende, ne serait-ce que par le box-office et la distribution. Chantal Lobby, légende des nuls, Christian Clavier, légende du Splendide, Mehdi Sadoun, légende des Kaira, Claudia Tagbo, Noum Diawara, Frédéric Chaud, légende du Jamel Comedy Club, l'excellent Harry Habitant, les quatre filles Verneuil, Loïc Legendre dont je parlais tout à l'heure. Bref, tout le monde est là et cette suite devrait en dérider plus d'un. Verdict dans deux petites heures, mais franchement, je ne suis pas inquiet.
Oh, merci. Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Mickaël Quiroga, Alando Ben, Jean-Philippe Vizini et nos deux invités Chantal Lobby et Philippe de Chevron, venus nous parler de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui sort tout à l'heure dans 805.
Anne, je peux préciser juste un truc, parce que c'est la première fois que j'ai un réalisateur qui a fait 12 millions d'entrées. Ouais. Je suis aussi comédien. Voilà, c'était.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, avec Philippe de Chevron et Chantal Lobby, venus nous parler de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui sort tout à l'heure dans 800 salles. Alors Chantal Lobby, j'ai lu votre biographie, il y a des trucs incroyables. Alors à un moment, vous ne saviez pas où aller, vous étiez à Clermont-Ferrand, vous vouliez partir, vous avez pris une pièce de monnaie. Oui. Et vous l'avez.
J'ai dit face Cannes, pile Paris. C'est tombé sur Cannes. Et alors, je suis partie à Cannes. Incroyable. J'étais avec un copain qui faisait un peu de déco, de choses comme ça.
Un peintre, ouais.
Ouais. Il faisait des tableaux.
Torturé,
des...
ça allait.
Ouais, il était bien. Hein, sympa. comme il fallait. Et puis voilà. Donc lui, il avait du travail, moi j'en avais pas. Puis on cherchait une présentatrice. À Cannes et à Nice.
Ça a démarré comme ça.
Ça a démarré comme ça. Et après, j'ai rencontré Bruno Carrette. On a fait B3Z, des fausses pubs, parodies et tout, que Canal a vu.
J'adore ça.
Et on a démarré. On a fait les...
Donc, si la pièce était tombée sur Paris, la vie aurait été complètement différente.
Je me suis toujours posé cette question. Ouais. C'est pour ça que quand L'humilité, elle vient peut-être de là aussi, c'est-à-dire que j'ai pas de plan de carrière. Vous faisiez des trucs une pièce d'un bal. Voilà ma vie.
Vous faisiez des trucs de dingue parce que vous avez sympathisé avec un orque au Marineland d'Antibes, un dauphin,
oui, aussi,
et vous alliez le chevaucher.
Ah, j'adore.
Et vous n'avez pas vu les images ?
Non, et dès que vous arriviez à côté de lui, l'animal ne voulait plus travailler.
Non, puis il se mettait sur le ventre, il fallait que je lui passe les pieds sur le ventre, il sortait son zizi. Mais bon, je l'aimais beaucoup, j'allais le voir tous les jours.
Il s'appelait comment ?
Il s'appelait Kim.
Chantal, je vous ai dit que j'avais une piscine ou pas ?
Non, mais j'adorais parce que je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un orque, que j'ai appris à découvrir l'intelligence de cet animal et tout, l'affection et tout. Et puis on m'a dit de ne plus venir le voir parce que ça perturbait son dressage, donc j'en ai voulu. En plus, ils lui ont pris une femelle. Ouais. Elle s'appelait Betty.
Elle était jalouse.
J'étais jalouse comme un fou. Puis un jour, j'ai appris qu'il était malade et puis que j'ai pris conscience que c'était pas fait pour vivre dans des bassins, ces animaux-là. Ouais. Mm-hmm. Donc maintenant, je milite beaucoup plus pour qu'ils restent en liberté.
Vous dites aussi, quand vous avez le blues, Chantal Lobby, vous buvez de la soupe de poireaux?
C'est-à-dire que non, c'est pas ça.
Juste un doigt. Faut arrêter. Hein.
J'ai passé pour une malade.
La soupe de poireaux, c'est
non,
ça qu'il faut.
Je bois du Genepi ou de la Suze, mais du Genepi ou de la Suze, mais des vieux trucs. Mais je veux dire, non, je me souviens d'une série où, pour moi, la soupe m'évoquait mon enfance. Donc je disais quand je faisais cette série, j'étais directrice d'une agence de mode et tout. Ça s'appelait Eva Mag. Je voulais, quand elle était dépressive, qu'elle arrive avec un panier de poireaux. Parce que pour moi, ça évoquait la dépression. C'est-à-dire le moment du dimanche soir où on fait la soupe. Vous savez, en famille, personne parle et tout le monde mange la soupe. Et il y avait un côté un peu dépressif là-dedans.
On n'entend que les...
Voilà.
Alors vous aussi, vous avez un arbre en Auvergne, bien un marronnier sûr. Avec qui vous êtes très amis.
Ah, pas qu'en Auvergne. J'en ai un sur les quais, j'en ai un vers chez moi.
Ouais. Vous faites des réunions des fois ou...
Vous ne trompez pas. C'est-à-dire que je réunis mon arbre au loin, qui est sur les quais, avec l'arbre qui est vers chez moi, et je les fais communiquer ensemble.
Mais vous faites quoi avec cet arbre? Chantal, vous le serrez?
Bien sûr.
Mais oui.
Vous lui parlez?
C'est connu, ça, de parler aux arbres.
Non, mais je sais. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Je ne sens rien.
Il faut prendre un arbre.
Parce que vous dites, je sens. Il faut que je sente quelque chose. Ça vient tout doucement, tout ça. Puis après, vous communiquez avec eux. Moi, j'adore les arbres.
Et sinon, le psychiatre, il vous a dit que vous sortiez quand, alors, en fait?
Non, je m'en fous. Vous voulez que je vous dise? Je m'en cogne. C'est ma manière de vivre, moi.
Non, mais il y a même des scientifiques qui ont prouvé que les arbres, à travers leurs racines,
non, mais ça existe,
communiquaient entre eux.
Ouais. Mais bien sûr. Puis on le sent très bien, un arbre qui vous... Moi, l'arbre chez ma grand-mère, quand il me voit arriver, il fait comme ça. Je le vois, je cours vers lui, je me jette contre lui. Je lui dis, ça faisait trop longtemps et tout. Mais je lui parle comme un être humain. Je ressens
des
choses.
Vous avez peut-être été un arbre dans une vie antérieure ou un dauphin.
Peut-être.
Un pommier.
Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, moi, c'est des choses de la vie que j'aime. Et bon, effectivement, on peut penser que je suis un peu...
Elle aime les arbres. Hein. Pour elle, un magasin de meubles, c'est un cimetière, en fait.
Oui, c'est un peu ça, oui. Ouais.
Léa Landau, des questions à vous poser.
Oui, Chantal Lobby et Philippe de Chauvron. Bah, en arrivant ce matin, la seule phrase que j'ai eue à la bouche, c'est « qu'est-ce qu'on a encore fait de mes questions ?» Parce que je dois vous en poser, elles avaient toutes disparu. Heureusement, j'ai appelé 4 potes, un juif, un noir, un chinois et un arabe. Et ils m'ont dit « t'inquiète, on va leur poser des questions, nous, à Chantal alias Belle-Maman et à Philippe alias Le Boss. » Voici donc les questions de Harry Habitant, Noum Diawara, Frédéric Chou et Mehdi Sadoun pour vous deux. Je commence avec Noum Diawara qui a une question pour vous, Chantal.
Oh là là.
Avec tous ces petits-enfants d'origine différente, est-ce qu'elle connaît toutes les fêtes auxquelles elle doit faire des cadeaux aux petits-enfants juifs, aux petits-enfants musulmans et aux petits-enfants bouddhistes?
Non, mais je sais que mes gens me les rappellent à chaque fois. Ça va, j'ai pas de soucis là-dessus.
Frédéric Chaud aussi a des questions. Alors la première, je crois que c'est pour Chantal.
Chantal,
oui.
Est-ce qu'on peut se dire, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, qu'avoir un gendre comme moi, ça te ferait plaisir?
Mais oui, bien sûr. En plus, t'es super beau. Vraiment du charme. T'es quelqu'un de doux. Ça me ferait plaisir, oui. Vraiment.
Mehdi Sadoun aussi a des questions pour vous.
Est-ce qu'il peut rappeler le moment où, et dans quel film surtout, à quel endroit un chef opérateur a pété un plomb sur moi?
A pété, j'ai eu peur.
Ah oui, alors en fait, c'est sur débarquement immédiat.
Ouais.
Mehdi, bon, il fait beaucoup de conneries, de bêtises, pardon, entre les prises. Et là, il s'est mis à faire le singe hurleur.
Ouais.
C'est une expérience atroce parce que ça
fait mal aux oreilles.
Ça fait très très mal aux oreilles. Et en fait, il a fait près du chef op qui a des problèmes d'acouphènes et qui est devenu fou et qui lui a parlé très très mal.
Voilà. Harry Habitant a aussi une question pour vous deux.
Salut Chantal.
Bonjour.
Chantal, tu sais très bien.
Bonjour
je
Harry.
Je te considère la plus belle belle-mère.
je te comprends.
Du cinéma français.
Bah oui.
Et aussi, j'aimerais te dire...
Quoi ?
J'aime tellement quand tu me chantes Léo Ferré, La Solitude, le monologue du début. Est-ce que tu peux me le refaire, s'il te plaît ?
Merci. Oh là là, mon Dieu. J'habite un autre pays que le vôtre, un autre quartier, une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que vous façonniez vos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules.
Ouh, c'est beau.
C'était mon idole.
C'était Léo Ferré par Chantal Lerie.
Oui. Oui, c'était mon idole.
Europe 1, Anne Romanoff.
L'histoire de la semaine.
Chantal Lobby, on a une tradition dans cette émission. Chaque jour, on démarre une histoire et les invités la poursuivent. Donc, là, c'est une histoire érotique qui a été démarrée hier par Michel Bernier, poursuivie hier par André Dussolier. À vous de la continuer aujourd'hui avec un mot dans le chapeau, à piocher dans le chapeau.
Bourgeoise.
Bourgeoise. Et faut juste une ou deux phrases. Donc, vous allez écouter ce qu'ont fait les autres et poursuivre en une ou deux phrases. Allons-y. La jeune fille s'étira langoureusement dans les coulisses
du théâtre des variétés. Il y avait comme une chaleur, quelque chose d'indescriptible, et sa peau s'est mise à perler de sueur.
Mais évidemment, quelqu'un dans la salle s'écria, la connaissant très très bien et très intimement, « On connaît la chanson !»
T'es là ? La suite ?
Tu l'envoies ?
Elle est où la bourgeoise ?
Bon, un peu plus, Chantal !
Ah, c'est bien ça, voilà. Elle est où la bourgeoise ?
Elle est où la bourgeoise ? Elle nous manque. Cette grosse salope.
Merci Chantal Lobby et Philippe de Chauvron d'être passés nous voir. On rappelle le film. Chantal, redites le nom du film qui sort aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?
De Philippe de Chauvron. Allez voir ce film dès aujourd'hui 14h. Merci à vous, merci infiniment. Dans quelques instants, c'est Raphaël Duchemin pour le journal et nous sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.